Aristote, Morale à Eudème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 3, chapitre 5, afin. Chapitre 5, sommaire. De la grandeur d'âme, définition du magnanime. Il y a une certaine magnanimité dans toutes les vertus. La grandeur d'âme est le dédain pour bien des choses. Elle s'inquiète assez peu de l'opinion vulgaire. Citation d'Antiphon. Contradiction apparente des sentiments qui font la grandeur d'âme. Quatre caractères différents qu'il faut distinguer pour bien comprendre ce que c'est que la grandeur d'âme. Analyse de ces quatre caractères. Paragraphe 1. Pour bien juger de la grandeur d'âme, il faut en rechercher le caractère propre dans les qualités qu'on attribue d'ordinaire à ceux qui passent pour être magnanimes. Comme tant d'autres choses qui, par leur voisinage et leur ressemblance, vont jusqu'à se confondre, lorsqu'elles sont à une certaine distance, la grandeur d'âme peut donner lieu à bien des méprises. Paragraphe 2. Aussi, il arrive parfois que des caractères opposés ont les mêmes apparences. Et par exemple, le prodigue et le libéral, le sot et l'homme grave, le téméraire et le courageux. C'est qu'ils sont en rapport avec les mêmes objets et jusqu'à un certain point, ils sont limitrophes. De même que le courageux, le téméraire supporte les dangers. Mais celui-ci les supporte d'une certaine façon et celui-là d'une autre, et cette différence est capitale. Paragraphe 3. Quand nous disons d'un homme qu'il a de la grandeur d'âme, c'est que nous trouvons, ainsi que la forme même du mot l'indique, une certaine grandeur dans son âme et dans ses facultés. On peut même ajouter que le magnanime ressemble beaucoup au magnifique et à l'homme grave, parce que la grandeur d'âme paraît être la suite ordinaire de toutes les autres vertus. Paragraphe 4. Car savoir juger avec un discernement assuré quels sont les biens vraiment grands et quels sont ceux de mince importance, c'est une qualité des plus louables. Et les biens qui doivent réellement nous sembler grands sont ceux que poursuit l'homme qui est le mieux fait pour en sentir tout le charme. Paragraphe 5. Mais la grandeur d'âme est la plus propre à nous les faire bien apprécier, car la vertu, dans chaque cas, sait discerner toujours avec pleine certitude le plus grand et le moindre. Et la grandeur d'âme juge les choses comme le sage, et la vertu même nous les imposerait. Par conséquent, toutes les vertus sont la suite de la magnanimité, ou la magnanimité est la suite de toutes les vertus. Paragraphe 6. Bien plus. Il semble que la disposition à dédaigner les choses est un des traits de la grandeur d'âme. D'abord, il n'y a pas de vertu qui, dans son genre, n'inspire à l'homme le mépris de certaines choses, même très grandes, quand elles sont contraires à la raison. Ainsi, le courage fait mépriser les plus grands dangers, car l'homme de cœur pense qu'il y aurait une grande honte à fuir et que la multitude des ennemis n'est pas toujours redoutable. Ainsi, l'homme tempérant méprise les plus grands et les plus nombreux plaisirs, et l'homme libéral ne méprise pas moins les grandes richesses. Paragraphe 7. Mais ce qui fait que le magnanime éprouve plus particulièrement ses sentiments, c'est qu'il ne veut s'occuper que d'un très petit nombre de choses, et de choses qui soient vraiment grandes à ses propres yeux, et non pas seulement aux yeux d'autrui. L'homme qui a une grande âme s'inquiéterait bien plutôt de l'opinion isolée d'un seul individu honnête que de celle de la foule et du vulgaire. C'est ce qu'Antiphon, quand il fut condamné, disait à Agathon qui le complimentait sur sa défense. En un mot, la négligence pour bien des choses paraît être le signe propre et principal de la grandeur d'âme. Paragraphe 8. Aussi, pour tout ce qui concerne les honneurs, la vie et la richesse, dont les hommes en général se montrent si ardemment préoccupés, le magnanime ne pense guère qu'à l'honneur, et il oublie à peu près tout le reste. La seule chose qui pourrait l'affliger, ce serait d'être insulté et de subir le commandement d'un chef indigne. Sa joie la plus vive, c'est de garder son honneur et de n'obéir qu'à des chefs dignes de lui commander. Paragraphe 9. On peut trouver que, dans cette conduite, il ne laisse pas que d'y avoir quelques contradictions, et que tenir tant à l'honneur et dédaigner en même temps la foule et l'opinion, ce sont des choses qui ne s'accordent guère. Mais il faut préciser et éclaircir cette question. Paragraphe 10. L'honneur peut être petit ou grand, en deux sens divers. Il peut différer, et selon ce qu'il vous vient, soit de la foule, incapable de juger, soit au contraire, de gens qui méritent qu'on tienne compte d'eux, et aussi selon l'objet auquel ils s'adressent. La grandeur de l'honneur ne tient pas seulement au nombre, ni même à la qualité de ceux qui vous honorent. Elle tient surtout à ce que l'honneur que l'on reçoit est vraiment de prix. En réalité, le pouvoir et tous les autres biens ne sont précieux et dignes de recherche que quand ils sont véritablement grands. Comme il n'y a pas une seule vertu sans grandeur, chaque vertu semble rendre les hommes magnanimes dans la chose spéciale qui la concerne, ainsi que nous l'avons déjà dit. Paragraphe 11. Mais ceci n'empêche pas qu'il n'y ait, en dehors de toutes les vertus, une vertu distincte qui est la grandeur d'âme, de même qu'on appelle du nom spécial de magnanime celui qui possède cette vertu particulière. Or, comme parmi les biens il y en a qui sont très précieux et d'autres qui ne le sont que dans la mesure où nous l'avons dit antérieurement, et qu'en réalité, de tous ces biens, les uns sont grands et les autres petits. Comme réciproquement parmi les hommes, il s'en trouve qui sont dignes de ces grands biens et qui s'en croient dignes. C'est dans leur rang qu'il faut chercher le magnanime. Paragraphe 12. Il y a donc ici quatre nuances différentes qu'il faut nécessairement distinguer. D'abord, on peut être digne de grands honneurs et s'en croire digne soi-même. En second lieu, il se peut qu'on ne soit digne que de très minces honneurs et qu'on ne prétende qu'à cela. Enfin, il est possible que les conditions soient à l'inverse dans les deux cas. Et j'entends par là qu'on pourrait, tout en ne méritant que le plus petit honneur, se croire digne des plus grands. Ou qu'en étant réellement digne des plus grands honneurs, on se contente dans sa pensée des plus petits. Paragraphe 13. Quand on est digne de peu et qu'on se croit digne de tout, on est blâmable, car il est insensé et il n'est pas bien d'accepter des distinctions sans les avoir méritées. Mais on est blâmable aussi quand on mérite pleinement les avantages qui vous arrivent, de ne pas s'en croire digne soi-même. Paragraphe 14. Mais il reste l'homme d'un caractère contraire à ces deux-là, et qui, étant digne des plus grandes distinctions, s'en croit digne comme il l'est en effet, et qui est capable de se rendre à lui-même toute justice. Il n'y a que lui qui en ceci mérite des éloges, parce qu'il sait tenir le vrai milieu entre les deux autres. Paragraphe 15. Ainsi, la grandeur d'âme est la disposition morale qui nous fait apprécier le mieux comment il faut rechercher et employer l'honneur et tous les biens honorifiques. De plus, ainsi que nous l'avons reconnu, le magnanime ne s'occupe point des choses qui ne sont qu'utiles. Par conséquent, le milieu qu'il sait garder en tout cela est parfaitement louable, et il est clair que la grandeur d'âme est un milieu, comme tant d'autres vertus. Paragraphe 16. Aussi nous avons signalé deux contraires dans notre tableau. Le premier, c'est la vanité, qui consiste à se croire digne des plus grandes distinctions quand on ne l'est pas. Et de fait, on donne ordinairement le nom de vaniteux à ceux qui se croient dignes, sans l'être réellement, des plus grands honneurs. L'autre contraire est ce qu'on peut appeler la petitesse d'âme, qui consiste à ne pas se croire digne de grands honneurs quand on l'est cependant. C'est en effet le signe de la petitesse d'âme quand on a des avantages qui méritent toute estime de croire qu'on est digne d'aucune distinction. Donc, de toutes ces considérations, il résulte la conséquence nécessaire que la grandeur d'âme est un milieu entre la vanité et la petitesse d'âme. Paragraphe 17. Le quatrième caractère, parmi ceux que nous venons d'indiquer, n'est pas tout à fait digne de blâme, mais il n'est pas non plus magnanime, parce qu'il n'a de grandeur en aucun sens. Il n'est pas digne de grands honneurs, mais il n'a pas non plus de grandes prétentions. Et par conséquent, l'on ne peut pas dire que ce soit là un vrai contraire de la magnanimité. Paragraphe 18. Toutefois, on pourrait trouver que se croire digne de grandes distinctions quand on les mérite en réalité a bien pour contraire de se croire digne de minces honneurs quand de fait on n'en mérite pas davantage. Mais, à y regarder de près, il n'y a pas ici de contraire véritable, parce que l'homme qui se rend à lui-même cette justice ne saurait être blâmable non plus que le magnanime. Il se conduit comme le veut la raison, et dans son genre, il ressemble parfaitement au magnanime lui-même. Tous deux également, ils se jugent dignes des honneurs dont ils sont justement dignes. Paragraphe 19. Il pourra donc devenir magnanime, puisqu'il saura toujours se juger digne de ce qu'il mérite. Mais quant à l'autre qui a de la petitesse d'âme et qui, en étant doué de grands avantages qui méritent tous les honneurs, s'en croit pourtant indigne. Que dirait-il donc s'il n'était digne véritablement que des plus minces honneurs? Il se croyait vaniteux d'aspirer à de grands honneurs, il se le croit encore en songeant à des honneurs au-dessous de son mérite. Paragraphe 20. Aussi, l'on ne pourrait pas accuser quelqu'un de petitesse d'âme si, n'étant qu'un simple métèque, il se croyait indigne du pouvoir et se soumettait aux citoyens. Mais on pourrait fort bien adresser ce reproche à celui qui serait d'une naissance illustre et qui, en outre, placerait le pouvoir très haut dans sa propre estime. Chapitre 6. Sommaire. De la magnificence. Elle s'applique uniquement à la dépense et à l'emploi de l'argent. elle est une juste mesure entre les deux excès de la prodigalité et de la mesquinerie. Exemple de Démistocle. La libéralité convient aux hommes libres. Paragraphe 1. On n'est pas magnifique pour une conduite et pour une intention quelconque indifféremment. On l'est uniquement en ce qui regarde la dépense et l'emploi de l'argent. Du moins, quand le mot de magnifique est pris dans son sens propre, et non pas dans un sens détourné et métaphorique. Il n'y a pas de magnificence possible sans dépense. La dépense convenable qui constitue la magnificence est celle qui est splendide. Et la splendeur véritable ne consiste pas dans les premières dépenses venues. Elle consiste exclusivement dans des dépenses nécessaires que l'on pousse à leur dernière limite. Paragraphe 2. Celui qui, dans une grande dépense, sait se fixer la grandeur qui convient et qui désire garder cette juste mesure où il sait se complaire, c'est le magnifique. Paragraphe 3. Pour celui qui dépasse ses bornes et qui fait plus qu'il ne sied, on n'a pas créé de nom particulier. Toutefois, il a quelques rapports de ressemblance avec les gens que l'on appelle assez souvent prodigues et dépensiers. Citons des exemples divers. Si quelqu'un de riche ne croit devoir faire pour les frais de la noce de son fils unique que la dépense ordinaire des petites gens qui reçoivent leurs hôtes à la fortune du pot, comme on dit, c'est un homme qui ne sait pas se respecter et qui se montre mesquin et petit. Au contraire, celui qui reçoit des hôtes de ce genre avec tout l'appareil d'une noce, sans que sa réputation ni sa dignité l'exigent, peut à bon droit paraître un prodigue. Mais celui qui, dans ce cas, fait les choses comme il convient à sa position et comme le veut la raison, est un magnifique. La convenance se mesure à la situation. Et tout ce qui choque ce rapport cesse d'être convenable. Paragraphe 4. Il faut avant tout que la dépense soit convenable pour qu'il y ait magnificence. Il faut observer et toutes les convenances de sa position personnelle et toutes les convenances de la chose qu'on doit faire. Le convenable n'est pas le même apparemment pour le mariage d'un esclave ou pour le mariage d'une personne qu'on aime. Le convenable varie également avec la personne, selon qu'elle fait uniquement ce qu'il faut, soit en quantité, soit en qualité. Et l'on n'avait pas tort de trouver que la théorie envoyée à Olympie par Thémistocle ne convenait pas à son obscurité antérieure, et qu'elle eût convenu bien mieux à l'opulence de Simon. Paragraphe 5. Lui, du moins, pouvait faire tout ce que demandait sa position, et il était le seul à se trouver dans le cas où n'était aucun d'entre eux. Je pourrais dire de la libéralité ce que j'ai dit de la magnificence. C'est une sorte de devoir d'être libéral quand on est né parmi les hommes libres. Chapitre 7. Sommaire. De différents caractères. L'envieux, le haineux. Du respect humain. De l'impudence. De l'amabilité et de la bienveillance. De la gravité et du respect de soi. De la sincérité, milieu entre la fausseté et la jactance, du savoir-vivre et de la politesse dans nos relations de société en ce qui concerne la plaisanterie. Réflexion générale sur ces diverses qualités et sur ses caractères. Paragraphe 1. De tous les autres caractères qui sont louables ou blâmables moralement, on peut dire, presque sans exception, que ce sont ou des excès ou des défauts ou des milieux dans les sentiments qu'on éprouve. Par exemple, tels sont l'envieux et ce caractère odieux qui se réjouit du mal d'autrui. Selon les manières d'être qu'ils ont tous deux et d'après lesquelles on les dénomme, l'envie consiste à se chagriner du bonheur qui arrive à ceux qui le méritent. La passion de l'homme qui se réjouit du mal d'autrui n'a pas reçu de nom spécial, mais celui qui la ressent se révèle bien clairement en se réjouissant des malheurs même les plus immérités. Paragraphe 2. Le milieu entre ces deux sentiments est le caractère qui n'a que cette juste indignation appelée par les anciens némésis, ou l'indignation vertueuse, et qui consiste à s'affliger des biens et des maux d'autrui qui ne sont pas mérités, et à se réjouir de ceux qui le sont. Aussi n'a-t-on pas manqué de faire de Némésis une déesse. Paragraphe 3. Quant à la pudeur ou respect humain, elle tient le milieu entre l'impudence qui brave tout et la timidité qui vous paralyse. Quand on ne se préoccupe jamais de l'opinion, quelle qu'elle soit, on est impudent. Quand on s'effraie sans discernement de toute opinion, on est timide. Mais l'homme qui a le respect humain et la vraie pudeur ne s'inquiète que du jugement des hommes qui lui semblent honorables. Paragraphe 4. L'amabilité tient le milieu entre l'inimitié et la flatterie. Celui qui s'empresse de céder à toutes les fantaisies de ceux avec qui il se trouve est un flatteur. Celui qui les contredit sans cesse est une sorte d'ennemi. Quant à l'homme aimable et bienveillant, il n'accepte pas aveuglément tous les caprices des gens. Il ne les combat point tous non plus. Mais il recherche en toute occasion ce qui lui paraît le mieux. Paragraphe 5. La tenue et la gravité sont un milieu entre l'égoïsme, qui ne pense qu'à soi, et la complaisance, qui cherche à satisfaire tout le monde. Celui qui ne sait rien concéder dans ses rapports avec les autres et qui est toujours méprisant n'est qu'un égoïste. Celui qui accorde tout aux autres et se met toujours au-dessous d'eux est un complaisant. Enfin, l'homme grave, qui se respecte, est celui qui accorde certaines choses et n'en accorde pas certaines autres, et qui sait se tenir selon le mérite des gens. Paragraphe 6. L'homme vrai et simple, qui, selon l'expression vulgaire, dit les choses comme elles sont, tient le milieu entre le dissimulé qui cache tout et le fanfaron qui bavarde sans cesse. L'un, qui, à bon escient, déprécie et rapetisse tout ce qui le concerne, est dissimulé. L'autre, qui se flatte toujours, est le fanfaron. Mais celui qui sait dire les choses comme elles sont est l'homme vrai et sincère. Et, pour prendre le mot d'Homère, c'est un homme circonspect. En général, l'un n'aime que la vérité, les autres n'aiment que le faux. Paragraphe 7. Un milieu, c'est encore la politesse ou le savoir-vivre. L'homme poli tient le milieu entre l'homme rustique et grossier et le mauvais plaisant qui se donne tout à tous. De même qu'en fait de nourriture, l'homme difficile et délicat diffère du glouton qui dévore tout, parce que l'un ne mange rien ou peu de choses, et encore avec peine, et que l'autre engloutit sans discernement tout ce qui se rencontre. De même, l'homme rustique et grossier diffère du mauvais plaisant et du bouffon trivial. L'un ne trouve jamais rien qui le puisse dérider, et il reçoit avec rudesse tout ce qu'on lui dit. L'autre, au contraire, accepte tout avec une égale facilité et s'en amuse. Il ne faut être ni l'un ni l'autre. Mais il faut tantôt admettre ceci, tantôt rejeter cela, et toujours suivant la raison. Et tel est l'homme poli qui sait vivre. Paragraphe 8. En voici bien la preuve, et c'est toujours la même, dont nous nous sommes si souvent servis. Le savoir-vivre ou la politesse, qui mérite vraiment ce nom, et non pas celle qu'on appelle ainsi par simple métaphore, est en ce genre de choses la façon d'être la plus honnête. Et ce milieu est digne de louange, tandis que les extrêmes sont à blâmer. Or, la vraie politique ne peut être de deux sortes. Tantôt, elle consiste à bien prendre les plaisanteries, surtout celles qui s'adressent à vous, et dans ce cas, à pouvoir supporter jusqu'au sarcasme lui-même. Tantôt, elle consiste à pouvoir, au besoin, plaisanter personnellement. Ces deux genres de politesse sont différents l'un de l'autre, et cependant, tous les deux sont des milieux. Paragraphe 9. Car celui qui sait pousser les choses jusqu'à ce point de faire encore plaisir à l'homme de goût saura, si c'est à ses dépens qu'on rit, tenir le milieu entre le manant qui insulte et l'homme froid qui ne saura jamais trouver la moindre plaisanterie. Cette définition me paraît meilleure que si l'on disait qu'il faut faire en sorte que le bon mot ne soit jamais pénible pour la personne qu'on raille, quelle qu'elle puisse être. Car il faut plutôt encore chercher à plaire à l'homme de goût qui reste toujours dans une juste impartialité et qui est, dès lors, un bon juge des choses. Paragraphe 10. Du reste, tous ces milieux, pour être louables, ne sont pas toutefois des vertus, non plus que les contraires ne sont des vices, car il n'y a pas dans tout cela d'intention ni de volonté réfléchie. Ce ne sont là, à bien dire, que des divisions secondaires de sentiments et de passions. Et chacune de ces nuances de caractère que nous venons d'analyser ne sont que des sentiments divers. Paragraphe 11. Comme ils sont tous naturels et spontanés, on ne peut les faire rentrer dans la classe des vertus naturelles. Du reste, chaque vertu, comme on le verra dans la suite de ce traité, est en quelque sorte à la fois naturelle et aussi, d'une autre façon, section. Paragraphe 12. Ainsi, l'envie dont nous avons parlé peut être rapportée à la justice, car les actes qu'elle inspire sont aussi dirigés contre autrui. L'indignation vertueuse, que nous avons également expliquée, peut être rapportée à la justice, et la pudeur qui vient du respect humain à la sagesse qui tempère les passions. Et voilà comment l'on classe aussi la sagesse dans le genre des vertus naturelles. J'ajoute enfin que l'homme vrai et l'homme faux peuvent passer pour avoir l'un de la sagesse et l'autre pour en manquer. Paragraphe 13. Parfois, il se fait que le milieu est plus contraire aux extrêmes qu'ils ne le sont entre eux. c'est que le milieu ne se rencontre jamais avec aucun d'eux, tandis que les contraires vont bien fréquemment de pair et que l'on voit fort souvent des gens qui sont tout ensemble lâches et téméraires, prodigues en une chose et avares en une autre, en un mot, qui sont tout à fait en opposition avec eux-mêmes dans de très vilaines actions. Paragraphe 14. Quand ils sont ainsi irréguliers et inégaux dans le bien, ils finissent par trouver le vrai milieu, parce que les extrêmes sont en quelque façon dans le milieu qui les sépare et les réduit. Mais l'opposition des extrêmes dans leur rapport avec le milieu ne paraît pas toujours égale dans les deux sens, et tantôt c'est l'excès qui domine, tantôt c'est le défaut. Paragraphe 15. Les causes de ces différences sont celles qu'on a indiquées plus haut. D'abord, le petit nombre des gens qui ont ces vices extrêmes. Et par exemple, le très petit nombre de ceux qui sont insensibles au plaisir. Et en second lieu, cette disposition d'esprit qui nous fait croire que la faute que nous commettons le plus souvent est aussi la plus contraire au milieu. Paragraphe 16. On peut ajouter en troisième lieu que ce qui ressemble davantage au milieu paraît moins contraire. Et tel est le rapport de la témérité à la sage assurance et de la prodigalité à la générosité véritable. Nous avons parlé jusqu'ici de presque toutes les vertus qui sont dignes d'être louées. C'est maintenant le lieu de traiter de la justice. Fin du livre troisième.